Mikhail Saltykov Chtchedrin, Trois contes russes, Conscience perdue. On avait perdu la conscience. Cependant, rien ne semblait changer. Il y avait toujours foule dans les rues et dans les théâtres. Les passants continuaient à aller et venir. Les ambitions continuaient à s'agiter, c'était toujours à qui apprêt un bon morceau à la volée. Personne ne remarquait que subitement quelque chose avait disparu et que certaines flûtes avaient cessé de jouer sa partie dans le grand orchestre de la vie humaine. Même beaucoup de gens commencèrent à se sentir plus libres et plus braves. L'homme eut la démarche plus légère et comprit mieux toute la commodité qu'on trouve à donner des crocs en jambes aux voisins, l'opportunité de flatter, de ramper, de tromper, de faire de faux rapports, de calomnier. Il semblait qu'on eût escamoté tout malaise. Les gens ne marchaient pas, ils se sentaient comme portés. Rien ne les affectait, rien ne les faisait réfléchir. Le présent, l'avenir, tout semblait appartenir à tous ces gens heureux qui n'avaient même pas remarqué la perte de la conscience. Elle avait disparu subitement, en un clin d'œil. Hier encore, elle était là, comme un parasite ennuyeux, visible à tous les regards, s'imposant à l'attention, et tout à coup, plus rien. Les fantômes déplaisants avaient disparu avec elle. Disparu aussi ce trouble moral qui accompagnait la conscience accusatrice. On n'avait plus qu'à se laisser aller au courant de la vie, à s'amuser. Les sages de ce monde comprirent qu'ils étaient enfin affranchis du dernier lien qui entravait leur mouvement, et il va sans dire qu'ils s'empressèrent de recueillir les fruits de cette liberté. C'était à qui ferait rage. Il n'y eut que rapine et que vol, et ce fut le commencement d'une ruine générale. Cependant, la malheureuse conscience gisait toute lacérée sur la voie publique. Les passants la conspuaient et la poussaient du pied. Chacun la piétinait comme on aurait fait d'une méchante loque. Chacun se demandait avec étonnement comment il se pouvait faire que dans une ville bien policée et à l'endroit le plus fréquenté, pareil scandale puisse s'étaler au grand jour. Dieu sait si la pauvre proscrite ne serait pas demeurée longtemps en cet état, sans un infortuné ivrogne qui la ramassa, après avoir convoité de ses yeux d'ivrogne ce mauvais chiffon, dans l'espoir de se procurer un petit verre d'eau de vie en le vendant. Et tout à coup, il le sentit circuler dans toute sa personne une sorte de courant électrique. De ses yeux troublés, il commença à regarder autour de lui. Sa tête, c'était évidemment pour lui, se débarrassait des vapeurs du vin. Et peu à peu, elle lui revenait, cette conscience amère de la réalité dont il s'était affranchi au prix de toutes ses forces vives, anéanties par la boisson. D'abord, il n'éprouva que de la peur, cette peur bête qui trouble parfois l'homme quand il a le pressentiment d'un danger menaçant. Ensuite, sa mémoire s'inquiéta. Son imagination se mit à parler. Sa mémoire impitoyable fit sortir des ténèbres de son honteux passé toutes les particularités relatives aux violences, aux trahisons, aux iniquités qu'il avait commises, tout ce qui rappelait la flétrissure de son cœur. Son imagination revêtit tous ces détails de forme vivante. Le voilà réveillé de sa longue léthargie, mais c'est pour se transformer en une sorte de tribunal et se juger lui-même. Tout son passé paraît au malheureux ivrogne comme un crime continuel, comme un perpétuel scandale. Il ne procède pas par interrogation, par examen, par analyse. Il est écrasé du premier coup en apercevant le tableau de sa chute morale. Et il se sent mille fois plus puni par ce tribunal intérieur devant lequel il a comparu de son propre gré qu'il aurait pu l'être par le plus sévère tribunal humain. Il ne veut même pas admettre par atténuation que la plus grande partie de ce passé pour lequel il se maudit ne dépendait pas de lui, infime et misérable ivrogne, mais d'une puissance mystérieuse et immense, qu'il a lancée et entraînée en ce monde, pareil à l'ouragan quand il emporte dans ses tourbillons, à travers la steppe, un frêle brin d'herbe. Mais qu'est donc son passé? Pourquoi sa vie a-t-elle suivi cette direction-là et non pas quelque autre voie? Qu'est-il lui-même? Autant de questions qu'elle ne peut répondre que par la plus complète ignorance et le plus profond étonnement. Le joug, tel est l'emblème qui a présidé à son existence. Il est né sous le joug et c'est sous le joug qu'il descendra dans la tombe. Or voilà que maintenant la conscience lui est apparue. Mais à quoi bon? Est-elle venue pour lui poser impitoyablement des questions sans réponse? Est-elle venue dans cette demeure détruite pour y faire revivre l'existence passée? Mais cette ruine pourra à peine supporter un pareil choc. Hélas, la conscience réveillée ne lui apporte ni espérance ni réconciliation. Elle ne sort de sa torpeur que pour le conduire dans une impasse. L'accusation volontaire de soi-même, dépourvue de sanctions, s'accuser pour s'accuser. Il vivait jadis entouré d'un brouillard. Aujourd'hui, le même brouillard subsiste, mais peuplé de visions douloureuses. Dès autrefois, de lourdes chaînes retentissaient à ses bras. Maintenant, ce sont encore les mêmes chaînes, mais leur poids a doublé, parce qu'il a compris que ce sont des chaînes. Notre ivrogne se mit à verser des larmes inutiles. Les bonnes gens qui passaient commencèrent à s'arrêter autour de lui et affirmèrent que c'était le vin qui opérait en lui. « Mes amis, je ne peux pas m'empêcher de pleurer, c'est au-dessus de mes forces !» disait le malheureux ivrogne. Et la foule de rire aux éclats et de se moquer de lui. Elle ne comprenait pas que jamais il n'avait été aussi affranchi des vapeurs du vin qu'à ce moment-là, et qu'il avait tout bonnement fait une fâcheuse trouvaille qui lui déchirait le cœur. Si cette foule avait fait elle-même pareille trouvaille, elle aurait compris assurément qu'il est au monde une douleur la plus cruelle de toutes, celle qu'on éprouve en trouvant inopinément la conscience. Elle aurait compris, cette foule, qu'elle-même était aussi difforme d'esprit, aussi abrutie que cet ivrogne qui se lamentait devant elle. « Mais non, se disait le malheureux, il faut que je m'en défasse, coûte que coûte, sinon c'est fait de moi. » Et déjà, il s'apprêtait à jeter sa trouvaille sur la voie publique, mais il en fut empêché par la présence d'un sergent de ville. « Toi, mon bon, lui dit ce dernier en le menaçant du doigt, tu m'as tout l'air de vouloir distribuer à la dérobée des brochures clandestines. Ce sera pas long, tu sais, de te fourrer au violon. » L'ivrogne cacha promptement sa trouvaille dans sa poche et s'éloigna. Il se dirigea à pas de loup et en regardant à la ronde pour voir si l'on ne l'épiait pas, vers le cabaret de sa vieille connaissance, le cabaretier Prokofitch. Avant d'entrer, il jeta tout doucement un coup d'œil sur l'intérieur par la fenêtre. Voyant qu'il n'y avait pas de pratique dans le cabaret et que Prokofitch sommeillait derrière son comptoir, il ouvrit rapidement la porte, entra en courant et sans donner à Prokofitch le temps de se reconnaître, il lui mit dans la main le terrible trouvaille et se sauva. Prokofitch demeura pendant quelques instants les yeux écarquillés. Ensuite, il se sentit pris d'une sueur froide. Il eut comme une vision qu'il faisait son commerce sans que ses papiers fussent en règle. Mais après une prompte et générale inspection, il reconnut qu'il ne manquait aucun papier, ni le bleu, ni le vert, ni le jaune exigé par les autorités. Il jeta ensuite un regard sur le chiffon qui se trouvait dans ses mains et lui parut connu. « Hé, fit-il, C'est bien le même chiffon dont je me suis défait à grand-peine avant l'achat de ma patente de cabaretier. Oui, c'est bien le même. Et après s'être convaincu de ce point, il calcula aussitôt que sa ruine était chose assurée. Voici le raisonnement qu'il fit pour ainsi dire machinalement. Un homme est dans les affaires, survient ce fléau sans défait. Il n'y a plus, il ne peut plus y avoir d'affaires. Il se mit à trembler incontinent. Il pâlit, il fut saisi d'une peur sans précédent chez lui. La conscience se réveillait en lui et murmurait: Non, non, il ne faut plus enivrer ignominieusement le pauvre peuple. Hors de lui, épouvanté, il appela son secours sa femme Alina Ivanovna. Alina Ivanovna courut, mais dès qu'elle eut reconnu l'acquisition involontaire faite par Prokhorytch, elle cria d'une voix émue: Au secours, à la garde, au voleur! Mais pourquoi suis-je condamné à une prompte ruine par la faute de ce misérable? Se disait Prokhorytch en pensant à l'ivrogne qui lui avait repassé la trouvaille, et de grosses gouttes de sueur lui vinrent au front. Le cabaret se remplissait cependant peu à peu de gens du peuple, mais Prokhorytch, au lieu de servir ses clients avec sa bonne humeur habituelle, les jeta dans un profond étonnement, non seulement en refusant de leur verser du vin, mais encore en leur démontrant d'une manière très touchante que, pour le pauvre, tout le malheur vient de la boisson. Si encore, disait-il à travers ses larmes, vous vous contentiez chacun de boire un petit verre, soit, ce serait même profitable, mais vous ne songez qu'à saisir les occasions pour avaler des tonneaux tout entiers. Et qu'arrive-t-il? Vous vous enivrez, on vous traîne au poste, et là, pour tout profit, vous recevez 100 coups de bâton. Réfléchissez un peu, mes amis, cela vaut-il la peine de courir après pareille chose et de payer par-dessus le marché un imbécile comme moi tout l'argent que vous avez gagné? Mais Prokhorytch, tu perds l'esprit, lui disaient ses clients étonnés. C'est pas extraordinaire qu'on le perde, ami, quand on est frappé par un malheur comme celui qui m'atteint, répondit Prokhorytch. Voyez plutôt l'espèce de patente que j'ai reçue. Il leur montra en même temps la conscience que l'ivrogne lui avait glissée dans les mains et demanda si personne n'en voulait profiter. Mais chacun ayant reconnu de quoi il s'agissait, c'était à qui se reculerait à distance respectueuse. Personne ne marquait d'empressement à accepter l'offre de Prokhorytch. Ne voyez la jolie patente qui en veut, répétait Prokhorytch en enrageant. Mais qu'est-ce que tu comptes faire dorénavant? Lui demandèrent ses clients. Maintenant, mes amis, oh, voici comment je raisonne. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, mourir. En effet, il m'est plus possible de tromper mon prochain. Je ne veux plus griser le pauvre peuple avec de l'eau-de-vie. Donc, que me reste-t-il à faire, si ce n'est de mourir? Il a raison, dirent ses clients, en riant de lui. Même, continua Pokovitch, voici ce qui me vient à l'esprit. J'ai envie de briser toute la vaisselle que voilà et de faire couler tout le contenu des tonneaux dans le canal voisin. On est plus sûr ainsi d'éviter la tentation de boire. Ici, Alina Ivanovna intervint par ces simples paroles. Essaye un peu pour voir. Car son cœur à elle n'avait évidemment pas été touché par la grâce divine descendue si subitement sur Prokhorytch. Mais ce n'était pas facile d'arrêter celui-ci. Il continuait à verser des larmes amères et à parler sans cesse. Si malheur pareil au mien arrive à un homme, disait-il, c'est que c'était écrit, cela devait arriver, cet homme était prédestiné au malheur. En s'examinant, en cherchant à se définir lui-même, oh, cet homme n'osera plus dire, je suis un commerçant, je suis un marchand. Il ne pourrait s'exprimer ainsi sans un trouble profond. Il doit dire simplement, je suis un malheureux. Prokhorych se livra pendant toute cette journée à ces exercices de haute philosophie, et bien qu'Alina Ivanovna se fût résolument opposée au projet de son mari de briser la vaisselle et de verser dans le vin dans le canal, néanmoins il ne vendit rien ce jour-là. Vers le soir, Prokhorych sortit de son état de tristesse. Il devint même gai, et en se couchant, il dit à Alina Ivanovna qui pleurait, « Eh bien, ma petite âme et très chère épouse, quoique nous n'aurions rien gagné aujourd'hui, oh, comme on se sent léger tout de même, quand on a la conscience pure !» En effet, à peine couché, il s'endormit, et ne fut pas agité en dormant, et même il ne ronfla pas, tandis qu'il ronflait jadis alors qu'il gagnait de l'argent, mais qu'il n'avait pas de conscience. Cependant, Alina Ivanovna voyait les choses un peu autrement. Elle comprenait très bien que, pour le commerce d'un cabaretier, la conscience n'est pas déjà une acquisition si agréable et dont on put espérer profit. Aussi bien résolut-elle de se défaire à tout prix de cet hôte important. Elle attendit patiemment toute la nuit, mais à peine le jour commença-t-il à poindre à travers les vitres poudreuses du cabaret, qu'elle déroba la conscience à son mari dormant et l'emporta précipitamment dans la rue. C'était justement jour de marché. Déjà, des campagnes voisines arrivaient les unes derrière les autres, les charrettes des paysans, et l'inspecteur de police Lovetz se rendait en personne d'un pas pressé à la place du marché pour veiller à ce que tout se passât dans l'ordre voulu. À la vue de Lovetz, Arina Ivanovna conçut un projet qui lui parut excellent. Elle courut à perte haleine après lui, et aussitôt qu'elle l'eut rattrapé, elle lui glissa la conscience dans la poche de son paletot avec une étonnante habileté sans qu'il s'en doutât. Lovetz n'était pas absolument un coquin sans vergogne, mais il était sans gêne et il pratiquait assez librement de petites malversations. Il n'avait pas un air insolent, mais il était doué d'un regard inquisiteur à l'excès. Ses mains n'avaient pas trempé dans de trop grosses vilenies, mais elles happaient volontiers tout ce qui s'offrait aisément à leur portée. En un mot, c'était un concussionnaire très convenable. Or voilà que tout à coup, cet homme-là, lui-même, commença à venir à récipiscence. Arrivé sur la place du marché, il lui sembla que toutes ses marchandises étaient dans les charrettes, aux étalages et dans les boutiques ne lui appartenaient pas, que tout cela était le bien d'autrui. Jamais il n'avait encore éprouvé pareille sensation. Il se frotta les yeux en se disant « Est-ce que je suis malade ? Oh, tout ceci est sans doute du songe !» Il s'approcha d'une charrette avec l'intention d'y promener ses mains, mais ses bras restèrent immobiles le long de son corps. Il s'approcha d'une autre charrette avec l'intention de secouer un moudjik par la barbe, mais ô terreur, les paumes de ses mains restèrent fermées. Il prit peur et se dit « Qu'est-ce qui vient donc de m'arriver ? Eh, mais je suis en train de gâter mon métier pour toujours !» Ne vaut-il pas mieux rentrer chez moi pour voir s'il n'y est pas laissé tout mon bon sens ? Espérant toutefois que son mal finirait par se passer, il se promena au milieu du marché en regardant ça et là. Il y avait une foule d'objets variés et surtout beaucoup de volailles. Et tout cela semblait lui dire « Il n'y a qu'à se baisser pour prendre. Il y a loin là de la coupe aux lèvres. » Cependant, les paysans, voyant que notre homme n'était pas dans son assiette naturelle et qu'il se bornait à clignoter des yeux vers leurs marchandises, devinrent plus hardis. Ils osèrent le plaisanter, ils l'appelèrent Nigo Nigodovitch, fils de Nigo. « Non, j'ai quelque maladie inconnue, » se dit Lovetz, et il rentra chez lui les mains vides. Madame, son épouse, l'attendait en supputant le nombre de sacs en écorce de tilleul qu'il pourrait rapporter, car d'ordinaire il en était tout chargé et c'était là-dedans qu'il mettait ses prises. Or, le voilà qui revenait sans un seul sac. Aussitôt, la moutarde monta au nez de Madame Lovetz, et s'élançant au-devant de son mari, elle lui dit « Mais où sont les sacs ?»« Ben, j'en atteste ma conscience, dit Lovetz. « Mais on te demande où sont les sacs ?»« Ben, j'en atteste ma conscience, répéta Lovetz. « Ah bien que ta conscience te procure de la nourriture jusqu'au premier jour de marché. Quant à moi, j'ai rien de donné à dîner, » déclara la Lovetz. Lovetz baissa la tête, car il savait que les paroles de son épouse étaient sans réplique. Il ôta son paletot. Immédiatement, une transformation s'opéra en lui. La conscience étant restée dans la poche du paletot accroché au mur, Lovett se sentit tout à coup allégé et libre comme autrefois. Il lui sembla de nouveau qu'en ce monde, rien n'appartenait à autrui et que tout était son bien. L'aptitude à tout s'approprier et à tout redévorer renaissait en lui. Et maintenant, vous ne m'échapperez pas, mes bons amis, s'écria-t-il en se frottant les mains, et il endossa promptement son paletot afin de retourner en toute hâte au marché. Mais, ô miracle, à peine avait-il achevé de mettre ce vêtement, que son élan s'arrêta net. Il s'était formé en lui comme deux hommes, l'un sans paletot, impudent et dépourvu de délicatesse, l'autre avec paletot, timide et modeste. Bien qu'il se sentît animé des sentiments les plus bienveillants, il n'abandonna pas son projet de retourner au marché. Peut-être, pensait-il, parviendrai-je à surmonter mon mal. Mais plus il approchait du marché, plus son cœur battait et plus il éprouvait le besoin de témoigner quelque amitié à tout ce pauvre monde qui travaillait sans relâche du matin au soir, dans la pluie et dans la boue, sans vous gagner 2 copecks. Il ne songeait plus au bien d'autrui. Loin de là, sa bourse lui devenait à charge depuis qu'il se rendait compte qu'elle contenait non pas son argent, mais celui du prochain. « Voici 15 copecks, mon ami, » dit-il à un paysan en lui donnant de l'argent. « Mais pourquoi me donnes-tu cela, grand nigaud ?»« Mais c'est comme des dédommagements pour mes injustices d'autrefois. Pardonne-les-moi, pour l'amour de Dieu. »« Que Dieu te pardonne !» Il parcourut ainsi tout le marché en distribuant tout son argent. La chose faite, il se sentit sans doute soulagé d'un grand poids. Néanmoins, il devint extrêmement pensif. « J'ai évidemment contracté quelques maladies, » se dit-il de nouveau. « Ben, je ferais mieux de rentrer chez moi, et je profiterai de l'occasion pour recueillir tout le long de la route les pauvres que je rencontrerai, et je les nourrirai. » Il fit comme il avait dit. Il ramassa, chemin faisant, un nombre infini de pauvres et les emmena dans sa cour. À cette vue, Madame Lovetz leva les bras au ciel en se demandant quelle nouvelle extravagance allait avoir lieu. Lovetz s'approcha doucement d'elle et lui dit d'une voix caressante « Ah, voici justement ma petite Théodosie, ces bonnes gens que je devais t'amener. Nourris-les pour l'amour de Dieu !» Mais à peine eut-il le temps de suspendre son paletot au porte-manteau, qu'il se sentit de nouveau affranchi de toute entrave. Apercevant par la fenêtre tous les pauvres de la ville réunis dans sa cour, il ne comprit pas ce que cela voulait dire. Mais quel pouvait être le motif de cette réunion? Est-ce qu'il lui allait falloir les bâtonner tous? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? Demanda-t-il en se dirigeant vers la cour. Mais comment, mais tous ces gens-là, mais ce sont ces dignes vagabonds que tu m'as donné l'ordre de nourrir, répliqua Madame Lovetz d'un air maussade. Ah, mais qu'on les chasse par les deux épaules, cria-t-il avec colère. Et il s'élança dans la maison comme un fou. Il parcourut longtemps les chambres en marchant en long et en large, répétant sans cesse. Mais qu'est-ce qui peut bien m'être arrivé? Comment lui, l'homme ponctuel, féroce, quand il s'agissait de l'accomplissement de ses devoirs professionnels, avait-il pu devenir tout à coup mou comme chif? Théodosie Petrovna, ma petite mère, qu'on me lie au nom de Dieu. Je sens qu'aujourd'hui je commets des sottises qu'on ne pourra pas réparer tout un an, dit-il d'un ton suppliant. Madame Lovetz reconnut que son mari était fort mal hypothéqué. Elle le déshabilla, le coucha et lui fit avaler des boissons chaudes. Au bout d'un quart d'heure, elle eut l'idée d'aller dans l'antichambre, fouiller dans les poches du paletot pour voir s'il n'était pas resté quelques copecs. L'une contenait une bourse vide, et dans l'autre, elle trouva un morceau de papier sale et huileux. Dès qu'elle eut déplié ce papier, elle s'écria en gémissant. Ah, voilà donc les tours qu'il nous joue, le malheureux. Il porte la conscience dans sa poche. Elle se mit à réfléchir. Elle chercha dans sa pensée comment on pourrait se défaire de cette conscience et à qui l'on pourrait la repasser. Il s'agissait pour elle de ne pas écraser sous le coup celui qu'elle choisirait pour victime, mais seulement de lui causer quelques dérangements sans conséquence. Après examen, elle trouva que le mieux serait de loger la conscience chez le financier juif Pjolski, le fondateur des grandes affaires, le créateur d'innombrables actions de chemin de fer. « Celui-là au moins a le coup solide, se dit-elle. Il sera en état de supporter cela. » Ayant pris cette décision, elle glissa prudemment la conscience dans une enveloppe timbrée sur laquelle elle écrivit le nom et l'adresse de Brzezinski, puis elle jeta l'enveloppe dans la boîte aux lettres. « Maintenant, dit-elle à son mari en rentrant, tu peux aller hardiment au marché. » Brzezinski était assis à dîner, entouré de toute sa famille. À côté de lui était placé l'un de ses fils âgé de 10 ans. L'enfant méditait des opérations de banque. « Qu'arrivera-t-il, petit père, si je place à 20% par mois cet or que tu m'as donné? Combien aurai-je à la fin de l'année ?»« Intérêt simple ou intérêt composé ?» demanda Brzezinski. « Intérêt composé, petit père, cela va de soi. »« Intérêt composé, cela fera 45 roubles et 79 copecs en négligeant les fractions. Alors, petit père, je le placerai ainsi. Place-le, mon ami, mais veille à ce que ce soit sur un nantissement de tout repos. » De l'autre côté de la table se trouvait un autre fils de Wierolski, jeune garçon de 7 ans, et lui aussi s'occupait à résoudre par un calcul de tête un problème d'arithmétique élémentaire. Plus loin siégeaient ses deux autres fils, et tous deux cherchaient combien d'intérêt le dernier devait au premier pour lui avoir emprunté du sucre candi. En face de Brzezinski trônait sa belle épouse, tenant dans ses bras sa petite fille nouveau-née, qui se penchait instinctivement vers les bracelets d'or de sa mère. En un mot, Brzezinski était un homme heureux. Il se disposait à goûter d'une sauce extraordinaire, tellement bonne qu'il eût volontiers fait parer la parière saucière de dentelles, de prix et de plumes d'autruche, lorsque le domestique lui présenta une lettre sur un plateau d'argent. À peine Brzezinski eut-il pris l'enveloppe, qu'il devint extrêmement agité. Il était comme une anguille sur le feu. « Mais pourquoi m'envoie-t-on cet objet ? » cria-t-il en tremblant de tout son corps. Personne ne comprit ce que cela signifiait, mais il devint évident pour tous qu'il était impossible d'achever le repas. Je ne décrirai pas ici les tourments qu'endura Brzezinski en cette nouvelle journée mémorable. Je dirai qu'une chose, cet homme d'apparence faible et débile supporta en héros les plus terribles tortures. Mais quant à se dessaisir de la moindre petite monnaie de 15 copecs, jamais il n'y consentit. « Je n'en ai rien, disait-il à sa femme dans les moments de crise aiguë, mais tiens-moi solidement, et si sous le coup de la souffrance Je te demande de m'apporter ma cassette. N'en fais rien, mon ami, que je meure plus tôt. » Comme il n'y a pas de situation au monde, si difficile qu'elle soit, pour laquelle on ne puisse trouver une issue, il s'en trouve à une aussi dans le cas actuel. Brzezinski se souvint fort à propos d'une ancienne promesse qu'il avait faite d'envoyer un don à un établissement de bienfaisance dont un général de sa connaissance avait la haute administration. Il avait laissé passer le temps sans s'occuper de cette affaire, et maintenant les circonstances lui indiquaient le vrai moyen de remplir cette ancienne promesse. Sans tarder, il décacheta avec précaution l'enveloppe qu'il avait reçue par la poste, en retira le contenu avec des pincettes, le remit dans une autre enveloppe en y joignant 100 roubles en assignat, cacheta la nouvelle enveloppe et se rendit chez le susdit général. « Je désire, Excellence, contribuer à votre œuvre par une offrande, » dit-il en plaçant son pli cacheté sur la table devant le général, dont la figure exprima la satisfaction. « Voilà, monsieur, un acte digne d'éloge, » répondit celui-ci. « En effet, vous autres, » ici son Excellence s'embrouilla complètement. « Non, parfaitement, votre Excellence, parfaitement !» s'empressa de dire Brzezinski, tout heureux de se sentir allégé de ce qui le gênait. « Oh, soyez convaincu que nous autres, gens de finance, nous sommes animés par le plus pur patriotisme et que nous sommes avant tout russes. »« Merci, » dit le général, « merci et... cependant, oui, Excellence, avant tout, russe, russe avant tout !» « Bien, bien, bon, bon, le Christ soit avec vous. » Sur ce, Brzezinski vola plutôt qu'il ne marcha par les rues pour rentrer chez lui. Le soir même, il avait déjà tout à fait oublié les souffrances passées et il se retrouvait dans son assiette naturelle. Il se remit immédiatement aux affaires et passa la nuit à méditer de nouvelles et colossales opérations de banque. La pauvre conscience vécut longtemps ainsi errante et passa par les mains de milliers de gens. Personne n'en voulait. C'était à qui la repasserait au voisin, n'importe à quel prix, même par ruse et par fraude. Elle s'ennuya à la fin, la malheureuse, de ne pouvoir se reposer nulle part et de mener une vie de juif errant. Alors, s'adressant à son dernier possesseur, certains petits bourgeois dont les affaires ne prospéraient point. « Et pourquoi me martyrises-tu ? » lui dit-elle d'un ton plaintif. « Pourquoi me foules-tu aux pieds ? » « Eh, que veux-tu qu'on fasse de toi, conscience, mamie ? » dit à son tour le petit bourgeois. « Tu es propre à rien. » « Voici ce que je te propose, » répliqua la conscience. « Cherche-moi un petit enfant russe, un petit russe tout nouveau-né, et loge-moi dans son cœur pur. Peut-être cet innocent m'accueillera-t-il, et serai-je choyé par lui. Et peut-être en grandissant, s'attachera-t-il à moi et m'emmènera-t-il avec lui dans le monde. Peut-être ne me haïra-t-il pas ?» Le petit bourgeois consentit à ce qu'elle demandait. Il chercha et trouva un petit enfant russe. Il lui ouvrit le cœur et introduisit la conscience dans ce cœur pur. Le petit enfant grandira et la conscience grandira avec lui. Ce sera un jour un grand homme avec une grande conscience. Et ce jour-là, les iniquités, les fraudes et les violences disparaîtront, parce que la conscience enhardie parlera en souveraine.